L'été fut un enfer. Il n'y avait pas la diversion de l'école. Chaque jour, il fallait reprendre conscience de cette abjection. Maman qui arrivait au petit déjeuner en gazouillant avec Célia qui ne lâchait presque jamais. À chaque minute, il fallait lutter contre l'appel du gouffre dans la poitrine. Il ne fallait pas haïr ce bébé qui n'était pas responsable de la débauche de cet amour maternel. Même si elle ne pouvait s'empêcher de lui trouver de la complaisance. Mais qui pouvait lui garantir qu'à sa place, elle n'en eût pas fait autant. Il fallait ne pas haïr maman qui se laissait aller à ses débordements sans l'ombre d'une pudeur envers son entourage. Toujours ce cruel manque de tact. Diane avait prouvé qu'elle pouvait comprendre beaucoup de choses inhumaines. Que sa mère lui préfère son frère, elle l'avait accepté avec une exceptionnelle grandeur d'âme. D'habitude, les enfants n'admettent pas de ne pas avoir la première place dans le cœur maternel. Surtout quand ils sont les aînés. Mais Marie avait bafoué la noblesse de Diane avec tant d'exagération que la petite fille ne pourrait jamais le lui pardonner. Mi-août, n'y tenant plus, Diane supplia mamie de la garder. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» interrogea la grand-mère. La fillette ne put pas répondre. L'aïeule la regarda dans les yeux et vit que cela n'allait pas. Comme elle l'aimait, elle n'exigea pas d'explication. Mais à la facilité avec laquelle Marie accepta de lui confier son aînée, elle devina bien des choses. Nicolas ne tarda pas à saisir que quelque chose clochait. Sa mère continuait de l'aimer, mais cela n'avait aucune commune mesure avec les transports d'amour qu'elle réservait à Célia. Quand il vit que Diane demandait l'asile grand-maternel, il déclara à son aînée que lui resterait à la maison, pour empêcher maman de manger Célia comme un gâteau à la noix de coco. Ce n'était pas une image. L'excès d'amour de Marie pour Célia évoquait la pâmoison éprouvée par certaines saintes du XIIIe siècle au moment d'avaler l'hostie. C'était de la gourmandise sacrée. Olivier ne s'inquiéta pas du désir de son aînée d'aller habiter chez ses grands-parents. Il savait qu'elle les adorait et elle reviendrait chaque week-end. Il partageait la passion de Marie pour Célia, même s'il ne la vivait pas de manière aussi fusionnelle. Il trouvait la nouvelle venue particulièrement craquante. Quand son épouse serrait la petite dans ses bras, il étreignait ce duo insécable et il fondait. Il était un bon père en ceci qu'il aimait profondément ses trois enfants et leur montrait son attachement. Mais il avait pour sa femme un amour qui le rendait aveugle à ses défauts et aux souffrances qu'elle infligeait à Diane. Il trouvait toujours un moyen d'expliquer les bizarreries domestiques de façon raisonnable et acceptable. Lorsque sa mère lui demanda pourquoi son aîné passait la semaine dans sa belle famille, il répondit que cela déchargeait Marie qui avait fort à faire avec le bébé et que Diane avait toujours eu une relation privilégiée avec les parents de son épouse. Il ajouta qu'elle était désormais une grande fille qui manifestait déjà son besoin d'autonomie. Quand son père s'étonna que Marie ne revienne pas plus vite travailler à la pharmacie, alors qu'après la naissance de Nicolas, elle avait si peu tardé, il répondit « Elle ne veut plus avoir d'enfants. Du coup, elle a conscience de pouponner pour la dernière fois et elle veut s'y consacrer à fond. » Pouponner. Ce verbe ridicule exprimait bien faiblement le comportement de sa femme. Seule la peur du « quand dira-t-on » faisait qu'elle daignait mettre le bébé dans son berceau pour la nuit. Sinon, elle l'aurait gardé auprès d'elle pour dormir. Le matin, elle s'éveillait avec l'obsession de son rejeton. Elle courait jusqu'au petit lit et s'emparait de sa bien-aimée en gémissant d'attendrissement. « Mon pain au chocolat, ma brioche toute chaude !» et commençait à la manger de baisers. Cette dévoration ne s'arrêtait jamais. Quand Marie buvait son café entre deux gorgées comme d'autres tirent sur leur cigarette, elle grignotait la joue de sa fille. Au cours de la journée, quoi qu'elle fît, elle avait toujours Célia auprès d'elle. Le plus souvent dans le sac kangourou qu'elle avait reçu pour la naissance de Diane et qu'elle n'avait jamais étrenné. Elle adorait désormais ce harnachement qui lui permettait de sentir en permanence l'amour de sa vie contre son ventre. Curieusement, elle ne l'allaita pas. Elle n'avait jamais songé à donner le sein à Diane ni à Nicolas. Pour Célia, elle se posa la question. En 1977, il lui parut que ce procédé ternirait son image de mère moderne et que la petite elle-même rougirait de cette alimentation préhistorique. Le sac kangourou était une invention formidable. Si elle n'avait pas craint de sembler une maman débordée, elle aurait repris le travail à la pharmacie avec l'enfant sur son ventre. Il lui importait tellement d'avoir l'air de tout maîtriser, d'être une femme accomplie. Il n'empêche que Célia fut pour elle une forme de rédemption. Quand elle avait son enfant dans ses bras, elle cessait enfin de se voir de l'extérieur. Pour démentielle que fût sa tendresse maternelle, elle lui permit de ne plus envisager les choses uniquement sous l'angle de l'envie qu'elle pouvait susciter. Marine reprit le travail à la pharmacie que 2 ans et demi plus tard, à l'entrée de Célia à l'école maternelle. Autant ses 2 aînés étaient des élèves idéales, sages et réfléchis, autant la petite dernière se révéla insupportable, habituée à ne subir aucune contrainte. La maîtresse en parla à Marie qui haussa les épaules. Un jour que Célia était en train de sangloter en hurlant et en se roulant par terre en classe, la maîtresse eut l'idée d'aller chercher Diane en plein cours. La fillette comprit aussitôt la nature du problème et suivit son ancienne maîtresse. Elle trouva sa petite sœur à l'état de bête fauve et marcha résolument vers elle. « Allons, c'est fini maintenant, » lui dit-elle. « Tu n'es plus un bébé, Célia. À l'école, on ne se conduit pas comme ça. » La petite obéit aussitôt. Désormais, chaque fois qu'elle piquait sa crise, on appelait Diane au secours. Célia éprouvait de la vénération pour cette grande sœur de 8 ans, si sérieuse et si belle. Diane avait pour l'enfant gâté une affection agacée qu'elle masquait derrière l'autorité bienveillante d'une aînée pleine de sagesse. Elle en parlait souvent avec Nicolas. « Toi qui es auprès d'elle pendant la semaine, n'hésite pas à jouer ton rôle de grand frère. Ce n'est pas la faute de Célia si maman est folle d'elle. » « Pas sa faute, c'est vite dit. » Elle n'a jamais connu autre chose. Il n'empêche que Diane avait du mal à se maîtriser quand elle passait les week-ends à la maison. Lorsqu'elle voyait Célia broyée d'amour dans les bras de sa mère, elle se rappelait l'étreinte de celle qui avait été naguère sa déesse. Et elle sentait se rouvrir en elle le gouffre du désespoir.